Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors, Norelia Voiseux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste de formation, spécialisée en droit de l'environnement. Vous êtes également formée en géographie, aux méthodes et aux outils d'accompagnement des acteurs de l'aménagement du territoire. C'est d'ailleurs à ce sujet qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. Et actuellement, vous êtes coordinatrice du projet ATRE, Agora de l'aménagement des territoires résilients. Alors, c'est donc à ce titre que nous vous invitons. Vous arrivez au bout d'un travail de recherche qui aura duré 3 ans, dont on va parler. Et l'an dernier, c'était en septembre, vous aviez évoqué au colloque déjà des 50 ans de sommet mondial de l'environnement, cette étude dont vous étiez à mi-chemin. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est ATRE.
Alors, ATRE, c'est un projet de recherche donc, qui est piloté par l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Et qui est sponsorisé et financé par la région Occitanie dans le cadre d'un programme plus large, le programme Littoral Plus, qui a donc vocation à finalement travailler sur des aspects de transition écologique et de résilience du littoral d'Occitanie. Et donc dans le cadre de ce programme, l'Université Paul-Valéry, que je représente aujourd'hui, pilote donc ce projet qui a vocation à faire de la co-construction avec les citoyens pour finalement envisager, réfléchir à des solutions d'avenir plus résiliente sur le littoral d'Occitanie tout particulièrement.
Alors, parce qu'on se trouve sur un littoral qui forcément est soumis, enfin, ou va être, ou est déjà soumis à la montée des eaux et qui fait partie des points rouges qui nous ont été signalés par le GIEC.
Tout à fait. Alors, ça ne concerne pas uniquement le littoral d'Occitanie, mais toutes les façades littorales sont concernées en France et dans le monde. Le GIEC, effectivement, l'a rappelé à plusieurs reprises lors des derniers rapports, et tout particulièrement dans le dernier. Montée des eaux, ça fait partie des risques, effectivement, littoraux. Il y en a plusieurs qui sont potentiellement, à l'œuvre sur ces façades-là. Montée des eaux, érosion, submersion marine, tempête, sécheresse. Voilà, tout ça, on met ça dans un package des phénomènes climatiques dits extrêmes, qui sont de plus en plus fréquents sur le littoral et tout particulièrement en Méditerranée.
Alors oui, j'allais dire particulièrement en Méditerranée parce que souvent les gens disent « Ah oui, on a vu en Normandie les falaises qui s'écroulaient, mais nous on ne le voit pas, mais forcément, parce qu'on est sur une zone, enfin une plage très basse, très sableuse et l'effet ne se voit pas immédiatement, il se voit quand il y a des accidents. »
C'est vrai, c'était très visible sur la façade atlantique. C'est par là que ça a commencé, les phénomènes un petit peu très médiatiques, parce que c'était visible et très impressionnant. La Méditerranée, très longtemps, a été soi-disant à l'abri, parce que petite mer, fermée, etc., de ces phénomènes-là. Mais les dernières études démontrent que voilà, c'est pas parce qu'elle est petite et qu'elle est fermée qu'il ne s'y passe rien, bien au contraire, c'est un petit peu l'eau qui dort, si je puis dire.
Alors, vous allez rendre bientôt donc, les résultats, vous vous donnez 6 mois pour les analyser. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'étude que vous avez menée ?
Alors, sur le plan personnel, je suis très satisfaite. C'était un projet extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant du point de vue scientifique, du point de vue relationnel, puisqu'on a travaillé avec de nombreux acteurs différents, des élus, des gestionnaires d'aires protégées, des citoyens, des acteurs institutionnels, des acteurs de la recherche. Donc tout ça a été très, très riche et très diversifié. Après, sur le plan opérationnel, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Il y a eu des échecs, mais l'idée, c'est d'analyser ces échecs pour... proposer à la région des pistes de solutions et des pistes de progression pour demain. C'était un projet expérimental, finalement.
Bon, on va en reparler longuement. Mais avant, est-ce que vous aviez déjà fait un projet... est-ce que vous aviez déjà conduit quelque chose de cet ordre ?
De cette ampleur, non. Alors, j'ai travaillé longuement à la SNCF, où il y avait quand même des projets d'envergure dans une entreprise quand même très importante, avec aussi des activités présentes sur l'ensemble du territoire. Donc, ça pouvait être très, très important à piloter. Donc là, à l'échelle régionale,
et comme c'était
ça,
déjà une concertation des gens.
Non, c'était vraiment des projets d'ampleur, mais c'était par exemple mettre en place des actions de développement durable. Entre le siège qui décide de mettre en place une action assez, un éco-geste par exemple, comment cet éco-geste va se diffuser sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des établissements, des gares, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est difficile de diffuser cette bonne pratique. Là, on est un peu sur les mêmes problématiques, parce que l'idée, c'est de changer les pratiques de décision publique, et donc d'intégrer plus les habitants des territoires concernés par ces phénomènes climatiques et puis sur l'avenir de ces territoires-là.
Alors justement, on sait que la mer va monter, mais comme pour le réchauffement climatique dont on parle depuis les années 80, finalement, malheureusement, il faudra attendre de le voir pour le croire. Et j'aimerais bien que vous me fassiez mentir. Et est-ce que vous avez rencontré un public attentif au sujet ?
Alors, c'est une question qui est difficile, dans le sens où on a travaillé sur des territoires différents, toujours en Occitanie, hein, mais donc des territoires différents, des acteurs plus ou moins sensibilisés à ces questions, des niveaux de connaissance des risques aussi très différents. Si vous prenez un retraité à Marseillan qui a une maison secondaire depuis quelques années, et puis que vous prenez un gestionnaire de réserve marine qui, lui, a un bagage scientifique et donc qui est un petit peu acculturé à ces risques-là, on ne parle pas du tout le même langage. Donc globalement, parler d'environnement, de développement durable, de changement climatique, les gens savent de quoi on parle. Par contre, quand il faut passer à l'action et quand il faut imaginer des solutions et potentiellement renoncer à des acquis, là c'est plus compliqué effectivement.
Alors, tout de suite, on va essayer de voir un peu quels étaient les trois lieux sur lesquels vous alliez intervenir, parce qu'on y reviendra régulièrement. Et effectivement, il y a une grosse différence entre chacun de ces lieux. Alors, vous aviez donc trois moments d'intervention ?
Oui, on avait trois terrains d'études qui ont été choisis en partie par la région. Donc, en fait, quand le projet a commencé, ces trois terrains étaient déjà délimités parce qu'ils étaient représentatifs de différents endroits. Différents départements
et de l'Occitanie.
De différents enjeux et de différents départements de l'Occitanie, toujours avec une ouverture sur le littoral. C'était forcément le fil conducteur. Et donc différents enjeux climatiques, enjeux écologiques et enjeux énergétiques.
Alors, donc, il y a Marseillan.
Voilà, donc Marseillan, commune de l'Hérault. Là, il y avait un enjeu climatique pour réfléchir finalement à l'adaptation du trait de côte à des phénomènes climatiques qui allaient aller en s'aggravant et donc potentiellement la recomposition spatiale des activités
et des
habitations.
Donc là, on s'adresse essentiellement aux habitants.
Aux habitants, tout à fait.
Alors ensuite, vous aviez un deuxième lieu qui était Port-la-Nouvelle.
Alors Port-la-Nouvelle, donc cette fois dans l'Aude, construction d'une usine d'hydrogène renouvelable, donc la nouvelle énergie dans le cadre de la stratégie de transition énergétique à l'échelle de l'Occitanie, donc quand même des gros enjeux financiers
donc,
et économiques.
Donc autre public, puisque là on se trouve avec des industriels.
Voilà, donc là un porteur privé, hein, entreprise privée, avec une concertation normalement un petit peu réglementée dans le cadre d'une enquête publique, etc. Donc un cadre un petit peu différent. Et donc là on s'adressait plutôt aux riverains, proches de l'usine en fait, hein, qui allaient voir le jour, et plus largement aux citoyens, pour le rassurer en fait, sur ce nouveau projet, cette nouvelle énergie qui est assez peu connue aujourd'hui.
Et enfin, donc, il y avait Banyuls.
Voilà, donc Banyuls, et plus spécifiquement la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, qui est là dans les Pyrénées-Orientales. Et là, on a accompagné les gestionnaires de cette aire protégée, donc plutôt portée par le département des Pyrénées-Orientales, pour l'extension de cette aire marine protégée. Dans l'idée, donc, c'est la plus vieille réserve de France, elle a été créée en 1974 et donc elle s'est portée candidate à un projet d'extension pour répondre à la stratégie nationale aire protégée qui a été dictée par le président de la République en début d'année.
Alors, on sait qu'au niveau régional, depuis longtemps, il y a une réflexion qui se mène sur les problèmes de résilience, d'adaptation. On a RECO et on a déjà une réflexion. En quoi votre recherche ou votre projet venait modifier un petit peu cela ?
Alors,
qu'est-ce qu'il ajoutait ?
Le projet, en fait, posait l'hypothèse au départ que plus tôt on associe les parties prenantes d'un projet, donc parties prenantes au sens large, hein, que ce soit les acteurs socio-économiques, les acteurs de la société civile, les associations, toutes les parties prenantes potentiellement impliquées par un projet, plus on les associe tôt dans les discussions, les réflexions et potentiellement la décision, si on arrive à faire de la co-construction, plus le projet serait accepté. Et plus un projet de territoire est accepté, acceptable, plus les gens, effectivement, comprennent et acceptent les transitions et donc les changements de culture et de pratique.
Mais et pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par vous, par l'université, etc. pour faire ça ? Il y a des lois, la loi sur les impacts, par exemple les études d'impact, devrait faire ce travail.
C'est vrai qu'il y a un cadre réglementaire et législatif qui existe, mais il n'est pas très bien fait. Dans le sens
c'est la manière de le dire.
En tout cas, il est pas adapté aux besoins et aux attentes des gens et des citoyens d'aujourd'hui.
Il est souvent fait après.
Voilà. Donc les études d'impact arrivent souvent très tard, alors que le projet est déjà ficelé et donc les gens ne voient plus l'intérêt de participer. Nous, on a proposé de tirer un peu sur la temporalité et d'arriver le plus tôt possible alors que le projet n'est pas encore décidé pour pouvoir dire aux citoyens, voilà, il y a une page blanche et on voudrait l'écrire avec vous. Et tout à coup, là, les gens, ils se disent, je vais avoir un vrai impact. Et ça marche mieux, du coup.
Alors, on va essayer de parler, finalement, de chacun, parce que chacun de ces projets, finalement, est un peu isolé, quoi.
Oui, ils étaient surtout représentatifs.
Ils devaient avoir quelque chose de commun.
Le seul dénominateur commun, c'était le fait que ça impactait le littoral et que c'était des projets de transition. Donc, partir sur des énergies renouvelables, c'est changer la donne au niveau énergétique. Étendre une réserve naturelle, c'était restreindre certains usages en place localement dans cet espace marin. Et puis, Marseillan, sur la recomposition spatiale, ça allait être de potentiellement bouger des activités ou demander aux gens de faire autrement. Donc, à chaque fois, il y avait quand même une dynamique de changement à l'œuvre sur le territoire. Et l'idée, c'était d'associer les gens pour que ce changement passe mieux, quoi.
Alors, on va d'abord parler finalement de Marseillan, parce que c'est peut-être un peu celui qui attend... c'est important parce que c'est la population, c'est vraiment les gens qui vivent sur le littoral qui ont été concernés par votre action. Et puis, finalement, c'est un petit peu tout ce qui va être aujourd'hui l'enjeu de la montée des eaux sur le littoral Languedoc-Roussillon.
Mmh. C'est vrai que Marseillan, même je pense aux yeux de la région, c'était un projet très important, puisque c'était un petit peu la commune pilote pour mettre en place ces réflexions. Après, toutes les communes du littoral vont devoir le faire, donc c'était un petit peu la première pierre à l'édifice, et donc la région était très attentive à ce qu'allait se passer à Marseillan, et elle l'est toujours d'ailleurs. Mais la difficulté qu'on a eue à Marseillan par rapport aux deux autres projets, c'est qu'on parle de quelque chose d'assez abstrait. Alors, une usine qui sort de terre sur l'hydrogène, les gens savent très bien à quoi ça va ressembler et comment ils vont être impactés dans leur quotidien, quand leur maison est à côté, etc. Une réserve naturelle, le pêcheur qui travaille dans cette réserve, il va comprendre qu'il ne pourra plus pêcher là. C'est très concret pour eux ce qui va se passer. Leur quotidien va changer. Quand on parle de la montée des eaux à 2100, les gens ont beaucoup de mal à se projeter. Et donc, le projet est moins concret pour eux. Donc, on a mis du temps à préparer les élus, parce qu'eux-mêmes ont du mal à se projeter sur des temps longs. On le sait, hein, la politique, c'est des temps assez courts. Donc, il a fallu essayer de les projeter sur des temps plus longs et ensuite emmener les citoyens. C'est-à-dire que Marseillan a quand même une population d'un âge moyen assez élevé. Hein, c'est sous beaucoup de retraités, de résidents secondaires, de gens qui sont venus passer leur retraite dans cette petite ville fort agréable, d'ailleurs, outre mesure.
Mais qui commence à y rester toute l'année, d'après ce que...
Ils commencent à y rester toute l'année, mais si vous voulez, 2100, pour eux, voilà.
Ouais.
Alors, on joue un petit peu sur, oui, mais...
Et vos enfants.
Les enfants, les petits-enfants, le patrimoine. Et là, quand on commence à toucher au foncier, au patrimoine, là, on commence un petit peu à réveiller les consciences parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants, à mes petits-enfants? Les biens vont perdre de la valeur. Les assurances, aujourd'hui, commencent à se dédire. À se retirer.
Oui, alors j'allais vous dire, donc voilà. Les gens commencent à se rendre compte de ce genre de choses.
Il se passe des choses au niveau foncier et pécunier et voilà, administratif. Là, les gens commencent à le ressentir de cette façon-là, effectivement. Mais visuellement, l'érosion, c'est difficile à voir. Il faut voir des cartes à 50 ans d'écart pour se rendre compte vraiment de l'érosion.
Oui, et encore, ça reste abstrait.
Ça reste abstrait.
C'est toujours l'autre.
Parce qu'en plus, c'est des phénomènes fluctuants. Par exemple, d'une année sur l'autre, parfois, la plage regagne un petit peu. Donc là, les gens se disent, c'est bon, en fait, on est à l'abri, c'est pas grave, ça vient, ça part. Mais en fait, il faut voir les choses...
En fait, vous les avez un petit peu touchés en leur parlant des difficultés qu'ils rencontraient dès à présent.
Oui,
Et est-ce que ça, ils s'en doutaient ?
Alors,
est-ce qu'ils l'avaient mesuré déjà ?
On a fait une grande enquête de perception l'année dernière auprès des citoyens, donc plutôt les habitants de Marseillan, habitants et habitantes de Marseillan, pour leur demander un petit peu voilà, comment eux, ils percevaient les choses, est-ce qu'ils les percevaient, quels étaient leurs sentiments, est-ce qu'ils avaient peur, pas peur. Voilà, on a un petit peu essayé de cerner un petit peu les différents profils. Et c'est vrai que sur la palette des émotions, on se rend compte qu'il y a un peu de tout. On part de la personne qui est très angoissée par ça, voilà, qui a même décidé de vivre dans les terres, parce que c'est quelque chose qui l'angoisse beaucoup. Des gens qui sont plutôt sceptiques, voilà, le changement climatique, on nous dit ça, mais on n'y croit pas trop, voilà, on a besoin de preuves.
Mais encore du déni.
Hein, voilà. Voire voilà, jusqu'au déni, où là vraiment, non, il ne se passe rien, Marseille, on n'est pas concerné, c'est les autres communes, Frontignan, Vias, là il y a des problèmes, mais chez nous, non, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on a trouvé un petit peu toutes ces émotions, et l'idée c'était de travailler aussi sur les attentes des gens, sur leurs émotions, pour pouvoir derrière leur donner de la donnée scientifique objective, et pour pas qu'on parte dans des climats de défiance, en fait, aussi par rapport à la parole des élus et des scientifiques dans les...
Alors, certes, vous pouviez leur donner des réponses scientifiques objectives, comme vous venez de dire, sur la montée des eaux, puisqu'on a eu des études sérieuses qui ont été faites sur le sujet. Mais par exemple, est-ce que vous pouviez leur donner aussi des réponses quant aux solutions ? Je pense par exemple au problème du foncier. On sait que l'arrière-pays de cette côte du golfe du Lion, finalement, est déjà très occupé.
Bien sûr.
Et le foncier va y être rare.
Bien sûr. Mais le vrai problème du retrait, ce n'est pas le retrait. C'est où on va, où on recule. Parce que souvent, derrière, il y a déjà du monde et tout le monde se bataille la vue mer. Hein. Enfin, on parle d'activités souvent saisonnières sur la station balnéaire, les campings, les activités nautiques, etc.
Donc là, ça devait les concerner, là.
Bien sûr, ça les concerne. Et c'est ces populations-là qu'on retrouve le plus souvent du côté du déni. Parce que pour eux, c'est un mécanisme de défense de dire « ça n'arrivera pas ». Voilà, d'essayer de convaincre les élus qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité.
Et même quand leur assurance refuse, par exemple, de les assurer en cas d'inondation, ils le savent, ça, maintenant.
Oui, ils le savent, oui. Ouais. Non, mais il y a une forme de résistance. Voilà, de résistance. Ils se sont même accoquinés les uns avec les autres pour résister en bloc, parce qu'il y a plusieurs campings, de gros campings, hein, sur cette bande littorale-là. Eux, ce qu'ils veulent, je pense, à court terme, c'est préserver leurs activités économiques, en profiter le temps que ça durera. Mais je pense que la plupart d'entre eux sont bien au fait quand même que...
Oui, et puis il y a déjà des exemples. Par exemple, le camping qui résistait sur Palavas, il a quand même maintenant un peu vidé un certain nombre de mètres cubes, de mètres carrés, pardon.
Ce qui est assez ironique, c'est qu'aujourd'hui, vous allez à Marseillan, la plupart des campings, il y a sur la porte des campings ou à l'accueil des campings une petite pancarte de sensibilisation sur les risques littoraux, notamment les risques d'érosion et de submersion. Donc voilà, c'est sans doute une obligation qu'ils ont eue peut-être de la part du maire. Mais en tout cas, c'est là, ça existe, ça commence à être visible même de la part des touristes qui viennent, etc.
Donc ça commence à monter, quoi. Voilà. Alors, maintenant, vous me disiez que sur Port-la-Nouvelle, donc finalement un projet d'usine, là, ça avait vraiment échoué.
Alors, quand vous me demandiez pour les solutions, nous, on n'est pas là pour proposer des solutions, on est là pour co-construire des solutions. C'est-à-dire à partir de tout ce qu'on peut offrir aux porteurs de projets, donc de la donnée scientifique, des enquêtes, des outils aussi, puisqu'on travaille beaucoup avec des outils hybrides de participation, donc du présentiel, des ateliers, des forums, etc. Et puis des plateformes de débat qui sont dédiées aux projets et où les gens peuvent continuer à discuter, réagir, etc. Donc on propose toute cette palette d'outils aux porteurs de projets, mais quand même, la base, c'est que le porteur de projet ait envie de le faire. Donc ça, sur Bagnols ou sur Marseillan, on a trouvé une volonté politique qui a été porteuse, une émulation au niveau local, qu'on n'a pas trouvé à Port-la-Nouvelle. Alors à Port-la-Nouvelle, on était face à un porteur de projet privé, avec une culture du secret industriel assez forte, et on n'avait pas le même vocabulaire en fait, on ne s'est pas compris. Alors qu'un élu, bon, intérêt général, côté gestionnaire de la réserve, il y a quand même beaucoup
bien
de scientifiques,
commun,
bien commun, etc. Donc là, on arrivait à trouver un objectif commun et à être emmenés ensemble. On était fédérés autour de valeurs communes, je dirais. Et à Port-la-Nouvelle, avec le supporter privé, on n'a pas trouvé.
Voilà, et alors il est parti ? Il a quitté.
C'est nous qui sommes partis.
Ah, c'est vous qui êtes partis.
C'est nous qui sommes partis au bout de plus de 18 mois de travail à proposer des choses, à concevoir des outils, à mettre en place des enquêtes, etc. Au bout d'un moment, c'était soit ils jouaient le jeu et ils ouvraient vraiment. Parce que là, on avait l'impression qu'on lui proposait des outils, il nous disait super, mais il ne les utilisait pas. Donc en fait, c'était nous, on perdait du temps, et puis eux aussi.
Et eux aussi.
Donc à un moment donné, on leur a mis un petit ultimatum. En
alors
disant,
maintenant,
si vous ne
qu'est-ce qu'il
pas,
leur reste ils, va, ils vont faire leur étude d'impact.
Enquête publique, voilà, traditionnelle, ouais. la procédure classique.
Et alors, c'était une usine d'hydrogène à partir de l'éolien. C'était une usine d'hydrogène vert, blanc.
C'était vert, voilà, renouvelable, a priori plutôt à partir de l'éolien flottant, oui, en Méditerranée, oui.
Eh ben pourtant, c'est important.
Ah ben, c'est un sujet plus que brûlant. Quand on regarde sur Internet, vous tapez éolien ou même, enfin l'éolien, on en parle énormément en ce moment. L'hydrogène
bah oui,
aussi.
Puis la PPE va de
le
toute
risque,
façon l'intégrer.
Le risque qu'ils ont pris, c'est que n'ayant pas à concerter avec la population locale, qui est de forte opposition au projet, une fois que celui-ci sortira.
Donc ils ont eu peur.
Ils ont eu peur, oui, je pense.
Ils ont eu peur.
Ils ont eu peur et ils ont eu peur que cela freine le projet, que l'opposition s'en saisisse. Ils ont eu peur de plein de choses. Après, voilà, nous, on a proposé, mais on ne peut pas forcer les porteurs de projet.
Bien
ça
sûr.
Reste le décideur qui décide, voilà. Et s'il n'a pas envie de le faire, on ne peut pas le forcer.
Bien, alors donc vous allez maintenant rendre chacune, enfin vous allez rendre vos travaux et finalement, qu'est-ce que vous allez proposer?
Alors nous, ce qu'on va essayer de rendre à la région, parce que c'est la région finalement qui en attend d'un retour d'expérience de ces différents projets, nous on va pouvoir finalement expliquer quelle a été la méthode, où est-ce qu'elle a fonctionné, où est-ce qu'elle n'a pas fonctionné et pourquoi.
Ah oui, d'accord.
Pour que finalement la région puisse répliquer sur différentes communes, différentes aires protégées, enfin sur d'autres territoires, d'autres projets.
Ah, c'est-à-dire que maintenant, d'autres personnes vont prendre en charge
ce
que vous avez fait et vont essayer de
Exactement.
Le porter ailleurs.
Et nous, on peut expliquer ce qui n'a pas fonctionné avec tel type d'acteur, là où il faut mettre en place de l'acculturation de plus, par exemple, pour que ça marche. Donc nous, on va vraiment donner le retour d'expérience, le package de solutions, et c'est la région après. Qui répliquera sur l'ensemble du territoire, ce qui a fonctionné, bien sûr.
Et est-ce que vous, ça vous intéresse de suivre quand même? Vous allez regarder?
Ah bah oui, bien sûr. Bah, on a même dans l'idée d'essayer de faire perdurer ce projet, parce qu'effectivement, le financement région durait 3 ans, mais il y a encore tellement de choses à faire. Marseillan, c'est une concertation qui va durer des années. Hein. Ça va durer au moins 10 ans, j'imagine. Donc, il y a une attente forte des territoires. On a compris qu'il y avait des choses qui marchaient bien. L'université, il y a plein de chercheurs qui sont sur ces thématiques-là, donc il y a quelque chose à faire entre acteurs aussi de la société civile et acteurs de la recherche. On voit que le mariage fonctionne bien. Donc voilà, on est dans l'idée de peut-être trouver un modèle économique où la région pourrait peut-être faire perdurer ses actions à travers une structure ad hoc ou accrocher un laboratoire de l'université. On est en train de réfléchir à des solutions pour que ça puisse ne pas retomber comme un...
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut absolument combattre cette date de 2100, qu'elle est un peu éloignée et que, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une accélération et qu'il faudrait changer ça.
Alors, je ne suis pas climatologue. J'imagine que s'ils parlent de 2100, c'est parce qu'ils ne peuvent pas...
Eux-mêmes sont revenus un petit peu.
Oui, oui, ils reviennent.
Déjà,
en fait, c'est...
Parce que finalement, les études n'avaient pas de réalité, de champ.
Ce qui est certain, c'est que c'est une date qui ne parle pas, à vous, à moi et aux citoyens quand on essaye de les faire s'engager. Là, on parle vraiment d'engagement citoyen. On se rend bien compte que sur des projets très, très concrets qui vont sortir de terre dans 2 ans, les gens s'engagent, voire même s'opposent. Donc, quand on leur parle de 2100, il est évident que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, on a moins de participation aujourd'hui à Marseillan que sur Banyuls, par exemple.
Alors que quand on leur parle de 2030, déjà mieux.
Déjà, c'est mieux, oui. Même pour les personnes qui aujourd'hui sont retraitées, parce que 2030, c'est vraiment demain.
Mais vous voyez, j'ai vu par exemple sur Palavas déjà des gens qui déconstruisaient et reconstruisaient en première ligne, donc en tenant compte effectivement de la montée des eaux et donc on se laisse des pilotis sur le rez-de-chaussée quoi, pour que la mer puisse rentrer. Et où des gens qui surélèvent déjà.
Bien sûr, mais en termes de solutions, de toute façon, il n'y a pas 36 000 options. C'est soit on protège, ce qu'on fait énormément aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Ça, oui, on met des digues, voilà.
C'est mauvais.
Ça entraîne d'autres dysfonctionnements au niveau des écosystèmes et ça peut même aggraver parfois les phénomènes. Deuxièmement, s'accommoder, s'adapter, c'est ce que vous venez de dire, construire autrement, se mettre en hauteur, créer des passerelles. Il y a des villes qui commencent à le faire, notamment dans les pays nordiques. On explique, quand on explique aux citoyens ce qui est possible de faire, on leur dit ce qui est fait dans le monde d'ailleurs, pour qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas, nous, focalisés sur Marseillan. C'est quelque chose qui est systémique et qui va être mis en place partout dans le monde. Et la troisième option, c'est le recul, c'est le retrait.
Mais le repli stratégique, le retrait, vous l'évoquez pas forcément tout de suite.
C'est un mot qui fait mal, voilà, surtout pour les activités qui pèsent lourd en financièrement, sur le plan des emplois, etc. C'est un mot qui fait un peu peur. Donc on l'utilise de façon générique en expliquant le package de solutions qui existe aujourd'hui. Mais on ne dit pas au camping, demain, vous allez devoir reculer. On dit, on va trouver des solutions ensemble. Et donc là, alors, c'est plus facile d'engager le débat.
La participation citoyenne, finalement, était quand même un peu l'enjeu de votre étude. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, dont on ne sait pas grand-chose, finalement, encore aujourd'hui. Est-ce que là-dessus, vous avez progressé? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé?
Alors oui et non. Oui, dans le sens où on a réussi à trouver des leviers de captation des gens et d'aller chercher des publics qui, en général, ne sont pas présents dans ces arènes politiques, de débats, etc., notamment les femmes, les jeunes, les gens sans emploi. Voilà, c'est des gens qui étaient assez éloignés des agora, parce que justement, on parle d'agora. Non, dans le sens où on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de minorités silencieuses et il y a encore un décalage entre ce que les gens disent vouloir. C'est-à-dire, on a l'impression, quand on fait les enquêtes, que les gens ont envie de participer, de s'investir, d'être intégrés aux décisions. Mais quand on organise des choses concrètement, des ateliers, des réunions, là, on a un peu moins de gens qui se mobilisent. Donc après, c'est la volonté, puis la contrainte ensuite, c'est-à-dire s'engager, ça demande quand même de venir, de prendre du temps, etc. Le citoyen, aujourd'hui, on sent que, bon, il a du mal à se lancer dans des processus longs comme ça.
Alors, il nous reste très peu de temps pour terminer. Est-ce que les médias peuvent être vos alliés? Est-ce que vous avez besoin d'eux?
Oui.
et est-ce que vous allez décider de leur parler un peu?
On a beaucoup communiqué avec les médias locaux, notamment à Marseillan. Donc là, on a eu heureusement le support de France 3 Occitanie, par exemple, de Midi Libre. Ils ont été d'une grande aide pour diffuser l'information, valoriser nos actions et puis surtout intéresser les gens. Chose qu'on avait moins sur Bagnouls, mais Bagnouls, on avait une grosse volonté politique de portage, donc il y a eu beaucoup de communication de la part du département, mais on se rend bien compte que la communication, c'est vraiment le nerf de la guerre, que sans ça, nous, université toute seule, on ne peut pas faire grand-chose, et que ça aide à vraiment mobiliser et à renforcer l'engagement des citoyens, ne serait-ce que pour faire connaître et diffuser.
Bon, écoutez, Norelia, on refait un appel à vous, sans doute à Divergence, et quand vous aurez terminé, rendu vos dossiers donc dans 6 mois à peu près, vous viendrez nous en reparler.
Avec plaisir.
Et puis surtout, on parlera peut-être de l'avenir et de la suite de ces projets.
C'est donc, un merci sujet qui continuera, oui, c'est sûr.
Merci à vous, bonnes vacances.
Merci à vous, Dominique.
Et bonnes vacances aussi à tous nos auditeurs.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.